au centre interdisciplinaire Herz-LIA. Je commence par vous d'ailleurs, Élie Carmon. D'abord, dites-nous, quelle est la situation ce jeudi? Le calme est-il revenu à la frontière entre Gaza et Israël?
Bonsoir. C'est pas le calme complet parce que hier il y a eu des tirs de mitraillettes du territoire de Gaza vers Israël, vers une ville en Israël. Trois maisons ont été touchées, mais heureusement il n'y a pas eu de victimes. Cette situation s'est calmée parce qu'il y a une pression très forte de l'Égypte sur le Hamas pour tenter d'enrayer ce mouvement de manifestations violentes qui ont provoqué la mort de 62 personnes. Mais on oublie de mentionner à l'Occident que 50 de ces 62 personnes étaient des membres du Hamas, de la branche militaire. Et c'est cela déclaré par les dirigeants du Hamas à Gaza.
Je vais y revenir. Alors la Ligue arabe appelle la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur ce qu'elle qualifie de massacre d'Israël envers les Palestiniens de Gaza. Des massacres qui s'apparentent à des crimes de guerre d'après le bloc panarabe. Comment le gouvernement israélien réagit-il à une telle accusation, Élie Carmon?
D'abord, toujours, il y a eu des investigations de l'armée même, et ensuite, si l'armée ne donnait pas un rapport suffisant, c'est la Cour suprême d'Israël qui prend en charge ce genre d'investigation. Et donc, presque toutes les opérations ou la guerre qu'Israël a eue dans le territoire de Gaza et dans le Nord, les résultats de ces investigations ont été approuvés par la Cour suprême et par les membres, disons, du ministère de justice israélien. Et comme j'ai dit, on oublie qu'est-ce que voulaient ces manifestants. C'est pas qu'ils voulaient manifester, ils voulaient pénétrer par force en territoire israélien, prendre contrôle des villes et des villages à la frontière. Et je pense seulement, qu'est-ce que se passerait si ce genre de multitude, avec des couteaux, avec des armes à feu, entrait dans le village? Et qu'est-ce que se passerait avec nos populations dans cette région de la frontière? C'est pas qu'ils veulent embrasser
les Israéliens. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Alors, Nora Taji, comment réagissez-vous aux événements de lundi?
Pour commencer, M. Aristide, on doit vraiment clarifier quelque chose. Il n'y a pas de frontière avec Israël. Hein. Israël n'a jamais déclaré ses frontières. Ce qu'on a, ce sont des lignes qui ont été définies durant l'armistice de 1949, incluant celle de 1967. Il y a ce qu'on appelle une zone tampon. Oui. Tampon entre Gaza et Israël. Donc il n'y a pas eu d'affrontement entre Palestiniens et Israéliens. Il y a eu simplement des rassemblements de Palestiniens pour protester paisiblement la déposition et suppression, demandant leur droit de retour comme réfugiés, demandant le droit de vivre.
Oui. Alors, Nora Taji, d'après un haut responsable du Hamas, la très grande majorité des Palestiniens tués cette semaine dans la bande de Gaza appartenaient au Hamas, un mouvement qui d'ailleurs contrôle Gaza. Alors, ces propos viennent-ils donner raison à l'armée et au gouvernement israélien qui ont contesté le caractère pacifique des manifestations à Gaza et accusé les Gazaouis qui ont été tués d'être des terroristes?
Mais vous savez très bien que Hamas est le, moi je l'appelle toujours, c'est le camouflage de justification là. Ils n'ont pas confronté, même s'ils étaient de Hamas, ils n'ont pas confronté des civils israéliens. Ils n'ont pas été un danger pour l'État israélien. Ils n'ont jamais atteint la ligne d'armistice. Malgré tout cela, l'armée israélienne avait des instructions claires de son gouvernement de tirer. Tirer sur les enfants, sur les femmes. Ils ont tué un bébé de 9 mois. Est-ce que c'était un membre de Hamas?
Ouais.
Cibler les mineurs et les jeunes hommes, les tirer sur leurs jambes, leurs pieds, ils attaquent les jeunes.
Oui.
Je ne crois pas que toutes ces personnes attaquées sont de Hamas.
Oui, Élie Carmon, en fait, j'aurais aimé avoir une réaction là-dessus. Voilà. Comment est-ce que l'armée israélienne, les forces israéliennes se sentaient en danger alors qu'il y avait, comme vous venez de l'entendre, des jeunes, il y a même des bébés qui ont été tués, bon, de très jeunes enfants. Donc, le gouvernement israélien répond quoi à cela?
Écoutez, on a tué plusieurs cellules de Hamas qui étaient armées avec des armes à feu, qui ont tenté de mettre des explosifs pour tenter de détruire les obstacles que l'armée a préparés.
Mais tous ces gens qui manifestaient n'appartenaient pas au Hamas.
Comment ça s'explique que le
bébé
avait
trop facile de dire que...
oui. était dans cet inferno? Ils n'ont pas expliqué exactement comment il est arrivé à la frontière avec sa mère qui tentait quoi dans ces incendies qu'ils ont provoqués par eux-mêmes avec toute cette fumée qui était préparée pour ne pas voir, pour ne pas permettre aux soldats de voir qui est terroriste et qui est civil.
Oui.
Donc c'est pas quelque chose de normal de provoquer ce genre de manifestation violente, provoquer des incendies du côté israélien et ensuite attendre qu'on le reçoive à bras ouverts.
Oui, mais un mot justement sur les manifestations de la bande de Gaza. C'était un mouvement appelé la marche du retour, lancée le 30 mars dernier. Cette marche a techniquement pris fin mardi dernier. Elle visait à défendre la revendication des Palestiniens à retourner sur les terres qu'ils ont fouies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Il s'agissait également de dénoncer le blocus israélien imposé à Gaza depuis plus de 10 ans. Emilio Viano, dans quelle mesure les événements de lundi étaient-ils liés à la question de l'ambassade américaine à Jérusalem?
Je pense que naturellement le fait qu'on a établi l'ambassade américaine à Jérusalem a causé beaucoup de cette réaction. On peut bien le comprendre de la partie des Palestiniens parce qu'il renforce la position d'Israël, que Jérusalem est la capitale d'Israël et toute la ville est sous le contrôle des Israéliens et que les États-Unis soutiennent cette position. Et vraiment, en réalité, c'est ce qui se passe parce que pour notre président, ça a été plus de tout une question de politique antérieure aux États-Unis. C'est-à-dire, on est bien préoccupé sur les élections de novembre où les démocrates pourraient reconquister.
Mais l'administration Trump peut vous dire que c'était une promesse de campagne, que également
exactement.
C'était
aussi
une loi votée par le Congrès depuis des années de cela. Donc, l'administration Trump n'a fait que concrétiser ce que les gouvernements américains n'ont pas voulu faire depuis des années. Mais dites-moi, de son côté, justement, Washington a également reporté la responsabilité de ce regain de violence sur le Hamas. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a même estimé qu'Israël a fait preuve de retenue. Alors, tous les ingrédients étaient-ils déjà réunis depuis le début des manifestations pour un tel embrasement à Gaza, notamment, Emilio Viano?
Oui, je pense qu'on parle toujours de Hamas, on parle toujours de ce que font les Palestiniens, on parle d'Israël comme si c'est un pouvoir très équilibré qui respecte les droits de l'homme.
Tout le monde, évidemment.
Mais en fait, quand on a presque 60 personnes mortes, ouais. Des milliers, des centaines de milliers qui sont été blessés, c'est difficile de le croire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en réalité contre l'État israélien qui est très bien armé? Et alors, il est une question de désespoir de gens dans Gaza parce qu'il ne se passe rien là. Il y a presque le 50% de désemploi entre les jeunes, il n'y a aucun espoir, on ne lui permet pas même de pêcher dans la mer qui est là, près de Gaza, et alors il semble que l'État vraiment n'a aucune intention de vraiment négocier. Et les États-Unis ont, c'est dommage, renoncé à son rôle d'être médiateur équilibré, un médiateur juste, qui prend les intérêts de tous les deux, les Israéliens et les Palestiniens.
En fait, j'aurais bien aimé avoir la réaction de Élie Carmon là-dessus. Élie Carmon, les Gazaouis qui manifestaient, et je vais vous dire en fait qu'un journal israélien a écrit à ce sujet. Alors, il y a ce journal, ce quotidien Haaretz, qui écrit « Qu'a fait Israël pour empêcher le bain de sang avant qu'il n'arrive ?» On parle de Gaza, évidemment. La réponse est « Presque rien. Depuis des mois, les forces de sécurité ont été averties que les infrastructures et l'économie de Gaza étaient dans un état désespéré, que le chômage était à la hausse et avec lui les sentiments de frustration et de rage. » C'est un journal israélien qui le dit, Élie Carmon. Donc, le gouvernement israélien a-t-il quelque chose lui-même à se reprocher?
On sait que le Haaretz est toujours très critique du gouvernement. Moi, je suis critique du gouvernement, mais dans ce cas, ils n'ont pas raison. Parce que Israël permet toutes les aides humanitaire. Il y a des billions de dollars, des milliards de dollars que les États-Unis et la communauté européenne ont donné aux Palestiniens, une partie en Cisjordanie, une partie à Gaza. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ont construit 32 tunnels qui ont été détruits il y a 4 ans. Et cette semaine, pendant les manifestations, ils ont détruit justement l'endroit par où passe toute cette aide. Ils ont incendié tout ce qui était là-bas, et cela inclut le pipeline de gaz qui permet justement à l'électricité de Gaza de fonctionner. Donc, ils sabotent justement ceux qui doivent aider, ceux qui doivent permettre une vie normale. Voilà. Tout le ciment qui a été payé par le Qatar a été utilisé pour la construction de tunnels et pour la construction d'une nouvelle industrie de missiles contre Israël.
Alors, donc c'est le Hamas qui... On va aborder d'autres aspects tout à l'heure. Alors, y a-t-il toujours un espoir de paix? Nous allons en parler dans la seconde partie du Washington Forum, sans oublier les commentaires Facebook. Ce sera après cette courte pause. Aristide, de retour avec vous. Merci d'être toujours branché sur Washington Forum. L'ambassade américaine a déménagé lundi dernier de Tel Aviv à Jérusalem. Une inauguration sous haute tension. D'emblée, vos points de vue sur la page Facebook de VOA Afrique. Prosper Yesufu Oyeton, porte nouveau Bénin. La tâche à l'international devrait être de chercher à unir ces peuples. Louis Moutanga, Kamina RD Congo. Nous savons que le conflit israélo-palestinien est à la fois religieux, politique et territorial. Et si l'on cherche à résoudre cela par la politique de deux poids, deux mesures, le sang continuera à couler. Archiduc Théodore Djamena Tchad, la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël par les États-Unis de l'ère Donald Trump est une promesse réalisée des textes depuis 1955. Jérusalem est toujours rattachée historiquement à Israël. Et nous retrouvons nos invités de Montréal, Nora Tagi, présidente de la Fondation canado-palestinienne du Québec. Elle est également secrétaire générale de la Fédération canado-arabe. De Tel Aviv, l'universitaire israélien Élie Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire Herzliya, et avec moi sur ce plateau, Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington. Nora Tagi, pour vous les Palestiniens, est-il possible d'envisager la paix sans Jérusalem?
C'est très difficile d'envisager la paix sans Jérusalem. Avant de demander la paix, il y a beaucoup de choses à mettre là, des points. On demande la justice, on demande la liberté, on demande que quelqu'un nous entende. On essaye de travailler en paix, on essaye toute campagne, la campagne BDS est paisible, notre marche de retour est paisible, et on est toujours reçu de l'autre côté en agression et affrontement. Vous savez que le Conseil national palestinien a bien reconnu le droit d'Israël d'exister en 1988. Il y a 30 ans qu'on essaye de rentrer en pourparlers avec Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas nous qui bloquons les pourparlers. Au début des pourparlers de paix de nouveau en 1993, en signant l'accord Gaza-Jéricho comme première étape.
Je suis vraiment navré de vous interrompre. Parlez-nous de solution. La création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale est-elle la seule solution d'après vous, Nora Tagi?
Ok, c'est la justice. Comment on peut atteindre la justice pour avoir un État? Est-ce qu'on va avoir notre État dans 22% de la Cisjordanie? Parce que vous savez que c'est plein de colonies et ils sont en train de développer encore des colonies chaque jour. Alors, on a du terrain 22%. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous voyez que ça, c'est faisable? On commence avec 22%, puis ça, ils peuvent, par exemple, détruire leur colonie pour qu'on ait notre terrain, ou ça va satisfaire le monde que notre pays soit sur 22% de la Cisjordanie?
Désolé de vous interrompre. Pour vous, en tant que Palestinienne, à l'heure actuelle, quelle serait la solution?
La justice et la liberté du peuple palestinien en Israël.
Ok.
Est-ce que ça signifie?
Élie Carmon, la solution à deux États, objet d'une quasi-unanimité au sein de la communauté internationale, comme étant l'unique voie possible vers la paix, est-elle encore possible?
C'est l'unique solution possible. Parce qu'autrement, il y aura un État avec deux
Mais attendez, cette solution requiert que le sort de Jérusalem, soit déterminé lors de pourparlers entre Palestiniens et Israéliens qui, nous le voyons clairement, là, revendiquent tous deux comme leur capitale. L'offrir comme capitale à Israël, n'a-t-il pas d'ores et déjà signé l'arrêt de mort de cette solution à deux États?
Non, pas du tout. On oublie que la décision de l'administration américaine est de reconnaître la réalité, c'est-à-dire Jérusalem Ouest comme capitale d'Israël et partout Jérusalem. D'ailleurs, il y a un an, la Russie a fait cette reconnaissance de la propre initiative du gouvernement russe, et on a déclaré Jérusalem Ouest capitale d'Israël, la Jérusalem Est la future capitale de l'État palestinien. Et c'est ça en fait la solution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution.
Il y a l'ONU également qui a dénoncé une avancée de la colonisation de certains territoires. Donc comment vous pouvez nous dire que cette solution à deux États est-elle toujours possible?
C'est l'unique solution possible, même si les gouvernements d'extrême droite, quelquefois, ou les partis d'extrême droite tentent de prendre possession de toute la Cisjordanie, la majorité de la population israélienne n'accepte cela et n'acceptera pas cela. Mais les Palestiniens n'ont pas fait de compromis. Il y a eu le plan de Bill Clinton, de président Clinton, avec Arafat et Barak. Ils n'ont pas accepté. Il y a eu la proposition du
d'Arafat, mais on a Il y a beaucoup d'observateurs
Monsieur
qui disent
Aristide.
Qu'avec cette décision, Nora Tagi, je vais vous donner la parole. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que Merci. Cette décision américaine a quelque part réduit le rôle de Mahmoud Abbas, et donc c'était un allié. Alors pour l'autorité palestinienne, justement, de Mahmoud Abbas, l'ambassade américaine à Jérusalem représente le summum du parti pris pro-israélien de l'administration Trump et viole le droit international. Emilio Viano, les États-Unis ont-ils perdu leur rôle de médiateur dans le processus de paix, comme l'affirme d'ailleurs le président turc Recep Tayyip Erdogan?
Malheureusement, je suis d'accord que les États-Unis ont perdu le rôle de médiateur, et l'ont perdu il y a longtemps, mais particulièrement maintenant. Par exemple, le médiateur des États-Unis, c'est le seigneur Kushner, le mari de la fille de président Trump, qui est juif, qui a donné de l'argent pour la construction, des colonies juives.
Vous dites que les États-Unis ont perdu ce rôle. Qui c'est qui va pouvoir le faire maintenant? L'ONU? Est-ce que vous pensez que l'ONU va pouvoir jouer ce rôle de médiateur?
Je crois que vraiment on a besoin de renoncer à la force, et elle est très difficile parce que, par exemple, on parle de Jérusalem, mais il y a Jérusalem pour les juifs laïcs, les juifs ultra-orthodoxes, les palestiniens, c'est-à-dire que même dans la côté israélienne, il n'y a pas de l'unité, il n'y a pas un accord, il y a des perceptions très différentes de ce qu'on va faire. Oui. Pas tout le monde est d'accord avec Netanyahu, mais les États-Unis envoient toujours et continuellement des messages que l'État israélien sera protégé, qu'il va obtenir plus d'armes, qu'il va être très fort. Il n'y a pas aucune raison pour eux de négocier vraiment et de donner, reconnaître la souveraineté palestinienne, parce qu'ils ont tout dans son pouvoir. Oui. On parle toujours que...
J'aurais bien aimé que Élie Carmon réagisse là-dessus, mais dites-nous d'abord, très rapidement, quelles pourraient être les conséquences des derniers événements pour cette région du Proche-Orient? Parce que, bon, le conflit à Gaza qui s'ajoute notamment à la montée de la tension avec l'Iran.
Je crois qu'avec les difficultés avec l'Iran maintenant et le fait que les États-Unis s'est mis à côté complètement de l'Arabie Saoudite et d'Israël, ouais. il y a toujours de plus en plus un potentiel pour une guerre régionale qui pourrait avoir des conséquences très pires pour tout le monde.
Oui. Alors, il y a des observateurs qui disent, je vais vous donner la parole, mais Nora Nagy, vous vouliez réagir tout à l'heure. Il y a des observateurs qui disent que les Palestiniens ont perdu les soutiens arabes. Pourquoi les Palestiniens se plaignent-ils du manque de soutien de leurs partenaires arabes, d'après vous?
C'est à mon tour, là.
Oui, allez-y.
Pourquoi on a perdu nos partenaires arabes? Je crois que ils trouvent leurs bénéfices plus de l'autre côté, c'est ça. On ne leur donne pas beaucoup d'aide ou bien de soutien d'un côté ou l'autre. Alors ils trouvent leur soutien avec les États-Unis, avec Israël et la balance n'est pas balancée là. Ce que je voulais vraiment clarifier concernant Jérusalem-Est, c'est que les autorités israéliennes ont adopté en janvier 2017 la loi dite de régularisation. Cette loi légalise rétroactivement l'approbation par les colons de milliers d'hectares de terres détenues par des particuliers palestiniens. Alors ça, c'est à Jérusalem-Est, et il y a 4500 maisons de colons qui ont été justifiées et occupées par les Israéliens. Les autorités israéliennes ont en outre lancé des appels d'offres par des dizaines de milliers de nouvelles implantations à Jérusalem. Alors l'intention n'est jamais là.
Oui. Une petite question très rapidement sur l'Afrique, Élie Carmon. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir rappelé son ambassadeur après le drame de Gaza. Alors, les derniers événements sont-ils susceptibles d'affecter le récent rapprochement entre Israël et l'Afrique? On sait qu'il y a eu pas mal d'échanges ces derniers temps.
Je ne crois pas. Au contraire, il y a des contacts avec les pays africains qui vont transférer leurs ambassades à Jérusalem Ouest, et il y a des pays de l'Amérique latine, déjà Guatemala et Paraguay ont transféré hier et avant-hier leurs ambassades. Il y a 4 pays européens, la Roumanie, l'Hongrie, la République tchèque et probablement la Macédonie, qui vont faire le même dans les prochaines semaines ou mois. Il y a d'ailleurs, on oublie que dans les années 90, il y avait 15 ambassades en Israël, à Jérusalem Ouest. Et sur le côté palestinien, il n'y a pas d'ailleurs d'unité entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Le Hamas est une force militaire qui ne permet pas à l'autorité palestinienne de contrôler Gaza, qui ne paie pas les salaires, qui ne paie pas le gaz et l'électricité à Gaza.
Élie Carmon, j'aurais bien donné le mot de la fin à Emilio Viano. Alors,
je voulais juste commenter très vite que c'est aussi très triste le silence du Congrès des États-Unis, particulièrement les démocrates, qui n'ont pas parlé absolument de ce qui s'est passé cette semaine à Israël, avec Gaza et tous les morts et les blessés. Il y a un silence complet, et c'est toujours pour des raisons à l'intérieur du pays, les élections de novembre et la peur des évangéliques, des protestants ultra-orthodoxes.
De ramener,
et ça, c'est un obstacle très fort pour rencontrer la paix.
C'est très difficile.
On oublie que c'est le Congrès américain tout entier.
C'est un débat qui va se poursuivre certainement. Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, merci à toute l'équipe. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide de Washington. À très bientôt. Take care. Merci bien.